c'est une disposition fiscale qui est injuste. Nous demandons à l'État de supprimer cette taxe sur la taxe pour préserver le pouvoir d'achat des Français.
Face à la flambée des cours qui menace, l'UFC Que Choisir demande au gouvernement la suppression d'une des taxes qui pèsent sur les carburants. Une pétition est lancée aujourd'hui.
Le débat relancé sur l'immigration et un dispositif en question, l'aide médicale d'État qui permet aux sans-papiers de se soigner. Un audit est demandé alors que son coût a doublé en 10 ans.
Le malaise des pompiers, ils sont réunis à Vannes à partir d'aujourd'hui en congrès.
On est en sous-effectif. Ça fait presque 30 ans que notre prime de risque n'a pas évolué. Par jour, on devrait être 18. On descend rapidement à 15, quoi, de garde.
L'instabilité politique en passe de se poursuivre en Israël. Pas de vainqueur net à l'issue des législatives. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, plus que jamais menacé.
De la peur, sans doute un peu, mais de l'impatience aussi. La forte attente autour du match de ce soir entre le PSG et le Real Madrid.
C'est magnifique, tout le monde ici, il est content. C'est un peu une légende de cette Champions League.
Ça se sont les mots de Marco Verratti. On verra ce que notre consultant européen Alain Roche prédit pour ce soir. Son analyse en direct dans ce journal.
Il est 7h01. Excellent réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Elle est déjà en ligne sur le site de l'UFC Que Choisir. Stop à la double peine fiscale. Europe 1 vous le révélait dès hier. L'association de consommateurs lance aujourd'hui une pétition pour demander au gouvernement de supprimer l'une des taxes qui pèsent sur les carburants.
Alors que les récentes attaques en Arabie Saoudite menacent de faire grimper les prix à la pompe, l'UFC Que Choisir estime que l'État doit faire un effort pour Europe 1. Maud Descamps.
Lorsque vous vous rendez à la pompe, sur un litre de carburant que vous payez environ 1,50€, il y a 50 centimes de matière première et environ 1€ de taxes, soit les deux tiers du prix du carburant. Des taxes qui n'ont pas tout lieu d'exister, estime l'UFC Que Choisir, qui demande donc au gouvernement de supprimer une partie de la TVA. Mathieu Esco est chargé d'études à l'UFC Que Choisir.
Sur votre consommation de carburant, vous payez de la TVA sur le carburant, vous payez des taxes environnementales, mais vous payez aussi de la TVA sur les taxes environnementales. Et cette taxe sur la taxe revient à 12 centimes d'euros par litre sur le gasoil, 14 centimes sur l'essence. C'est une disposition fiscale qui est injuste. Nous demandons à l'État de supprimer cette taxe sur la taxe pour préserver le pouvoir d'achat des Français.
Supprimer cette taxe, ce serait 4,5 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Une option qui n'est pas sur la table pour le moment, que ce soit au ministère de la Transition écologique ou à Bercy, où d'ailleurs certains s'agacent de cet appel lancé par l'association. Allons-y, supprimons cette TVA, peste un fonctionnaire de Bercy, mais dans ce cas, que l'UFC nous dise où aller chercher les 4,5 milliards d'euros manquants.
Autre idée formulée ce matin en exclusivité sur Europe 1, celle du patron de Total qui demande l'instauration d'une taxe flottante.
Et vous l'entendrez dans le journal de 8h tout à l'heure avec Sonia Mabrouk, en plein débat sur ces augmentations des prix des carburants. Un chiffre ce matin tout de même rassurant pour notre porte-monnaie, le pouvoir d'achat des Français va progresser de 2,3%.
Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Marion.
La France creuse l'écart avec ses voisins européens.
Eh bien oui, notre économie tourne à un rythme plus élevé que chez nos voisins pour une grande raison, c'est que le pouvoir d'achat progresse et ça se traduit dans les chiffres de la consommation. La Banque de France anticipe, vous l'avez dit, cette année un gain de pouvoir d'achat de 2,3%, un peu moins élevé l'an prochain, 1,4%, mais ça reste positif quand même. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que le comportement des Français change doucement. Traditionnellement, ils ont tendance à mettre de l'argent de côté quand ils gagnent un peu plus par manque de confiance dans l'avenir. Or là, comme le chômage recule, la confiance revient petit à petit et les Français consomment plus.
La consommation, c'est un pilier de la croissance, on le sait, mais est-ce que c'est durable, Nicolas ?
Alors, ça va durer l'an prochain, ça va soutenir l'activité. On prévoit une croissance de 1,3% cette année et l'an prochain. Par contraste, en Allemagne, la croissance est presque trois fois plus faible, 0,5% cette année. On peut s'en réjouir, mais pas trop. L'Allemagne va moins bien parce que c'est la première puissance exportatrice mondiale et que la guerre commerciale la touche directement. Nous, nous allons mieux parce que nous sommes de moins grands exportateurs et puis aussi parce qu'on a laissé un peu filer nos déficits. Moralité, ce sont nos défauts qui soutiennent la croissance et ça, ça n'est pas très durable.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'éclairage éco tous les matins dans le journal de 7h.
C'était l'éclairage éco avec la Caisse d'Épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Il est 7h04 sur Europe 1, la suite du journal. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Ce sera désormais un sujet central d'ici à la fin du quinquennat. L'immigration remise au cœur du débat public par Emmanuel Macron. Le sujet sera d'ailleurs évoqué ce soir à l'occasion d'un déplacement du chef de l'État en Italie.
Et dans ce débat sur l'immigration, on a choisi de s'arrêter ce matin sur la question de l'AME, l'aide médicale d'État, qui donne accès aux soins aux étrangers en situation irrégulière. Des ajustements ne sont pas exclus alors que le budget de cette mesure a doublé depuis 10 ans. Théo Manval, comment on explique ce doublement ? Où va l'argent ?
Eh bien, selon un rapport parlementaire, plus des deux tiers des dépenses relèvent de soins à l'hôpital, dialyse, suivi de patients atteints du sida ou encore de femmes enceintes. Le reste, c'est de la médecine de ville, consultations ou ordonnances pour des médicaments. Alors, comment est-on passé de 500 millions à 1 milliard d'euros de budget en 10 ans ? D'abord, à cause de la hausse du nombre de bénéficiaires, passé de 200 000 à 300 000 aujourd'hui. Mais aussi, explique Christophe Sirugue, ex-député PS, auteur de deux rapports sur le sujet, parce que ces migrants arrivent dans un état de santé de plus en plus dégradé.
Avec des pathologies infectieuses qu'on n'avait plus vues sur notre territoire, tuberculose, des maladies qu'on pensait avoir éradiquées. Donc on n'a plus forcément les réflexes qui sont nécessaires, il faut les identifier, puis ensuite relancer des traitements qui font que plus on a tardé, plus le coût est important, parce que le traitement est important.
Deux rapports parlementaires, ainsi qu'un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, n'ont pas permis jusqu'ici de démontrer que la fraude était responsable de cette explosion du budget. Le gouvernement a demandé un nouveau rapport à l'IGAS pour le mois d'octobre et planche déjà sur une possible réduction des soins pris en charge par l'AME pour faire baisser les coûts.
Les explications de Théo Manval pour Europe 1. C'est une profession en plein malaise qui tient congrès à partir d'aujourd'hui à Vannes. Les sapeurs-pompiers réunis jusqu'à samedi après des mois de grève dans de nombreuses casernes.
Agression. Manque de moyens, les motifs du mécontentement sont nombreux. Illustration ce matin à Meaux, en Seine-et-Marne, Pauline Jacquot.
On est en sous-effectif, ça fait presque 30 ans que notre prime de risque n'a pas évolué. Par jour, on devrait être 18, on descend rapidement à 15 quoi, de garde.
Saïd est pompier depuis 20 ans, un métier passion, dit-il, mais voilà maintenant 2 mois qu'une banderole noire est accrochée aux grilles, pompier en grève.
Les ambulanciers ne peuvent pas fournir de transport, donc on fait office de 40 ambulances privées. On se retrouve du coup à aller... aider dans les EHPAD, des choses comme ça. On s'est écarté de nos missions, on n'a plus l'effectif pour les faire. Donc finalement, il faut qu'on se reconcentre sur nos interventions, pas sur les interventions d'autres services. On est fatigué de tout ça.
Le risque, souffle Thibault, son collègue, c'est aussi de ne pas pouvoir répondre systématiquement présent en temps et en heure.
Il peut y avoir 2 ambulances qui partent pour des carences, 2 interventions qui ne sont pas de notre ressort, du coup il en reste une. Donc vous comprenez bien qu'on fait 6000 interventions par an de secours à personne à Meaux. Quand vous avez... qu'une seule ambulance pour assurer ses départs, à un moment, il faut choisir.
Des conditions de travail qui commencent à démotiver les plus jeunes.
Avant, on se bousculait pour faire le concours et aujourd'hui, va y avoir 1000 places, va y avoir 1000 inscrits.
Les 40 pompiers de la caserne de Meaux demandent à Christophe Castaner d'agir vite avant que ce manque d'effectifs n'ait des conséquences dramatiques.
Un reportage à Meaux signé Pauline Jacquot pour Europe 1 et les sapeurs-pompiers. On sera à leur côté sur Europe 1 demain à Vannes, émission spéciale de La France bouge entre 12h et 14h avec Raphaël Duchemin et toute son équipe en direct du congrès des sapeurs-pompiers.
Europe 1, il est 7h08.
C'était il y a un peu plus de 4 ans maintenant l'attaque du Thalys entre Amsterdam et Paris. Un homme armé d'une calache qui avait ouvert le feu dans une rame avant d'être maîtrisé par les passagers.
Des faits qui vont être rejoués aujourd'hui à l'occasion d'une reconstitution en présence du suspect. Les détails avec Guillaume Bié pour Europe 1.
C'est dans un lieu tenu secret, à l'abri des regards, que la reconstitution va se dérouler, loin de la ligne à grande vitesse du Pas-de-Calais où l'attaque avait eu lieu il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est dans un hangar ferroviaire quelque part en région parisienne qu'une rame de Thalys sera spécialement mise à disposition de la justice. Sur place, les juges et leurs greffiers, bien entendu, les enquêteurs de l'ASDAT, les experts balistiques ainsi qu'une quinzaine de témoins directs de l'attentat, mais pas les 3 héros américains qui ont maîtrisé le suspect, ils ne seront pas présents. En revanche, le terroriste présumé, lui, sera bien là. C'est son avocate qui a insisté pour que cette reconstitution ait lieu malgré un premier refus des juges d'instruction. C'est donc rarissime dans une affaire de terrorisme. Le suspect va reproduire toute l'attaque, étape par étape. Sa sortie des toilettes, Kalachnikov à la main, son tir qui a blessé un passager, la lutte jusqu'à son interpellation. Une reconstitution qui doit durer plusieurs heures et qui pourrait être l'un des derniers actes d'enquête de ce dossier.
Précision de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. L'affiche est belle, mais le PSG peut-il vraiment y croire face au Real Madrid ? Analyse en direct dans un instant du consultant Europe 1 Alain Roche, la suite du journal sur Europe 1.
Il est 7h09. Europe 1. Il est 7h11 sur Europe 1, la suite du journal. Mathieu Béliard, Marion Calais.
Seconde élection législative en 5 mois en Israël et l'instabilité menace toujours avec des résultats très serrés.
Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais le Premier ministre sortant et le centriste Benny Gantz sont au coude à coude. Désormais, le jeu des alliances s'annonce déterminant. Mais jamais Benjamin Netanyahou n'a été aussi menacé. Marine Igli est la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem.
Il a été le dernier à prendre la parole hier soir. Sur scène, La mine grave, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a promis à ses supporters qu'il ne lâcherait rien. Mais alors que les résultats des élections continuent de tomber, son parti, le Likoud, est devancé par celui de son rival, l'ancien chef de l'armée israélienne, Benny Gantz. Lui est resté prudent hier soir. Gantz a seulement annoncé qu'il avait déjà entamé des négociations pour former un gouvernement. Car ce matin, c'est surtout une longue période d'incertitude qui débute en Israël. Aucun camp n'émerge totalement vainqueur des élections et déjà, certains candidats évoquent l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale. Dans tous les cas, pour l'indéboulonnable Netanyahou, au pouvoir depuis plus de 10 ans consécutifs, le pari s'annonce risqué. Mais guetté par plusieurs affaires de corruption, Netanyahou va sûrement tout essayer jusqu'à la dernière minute pour rester à la tête d'une majorité. C'est la seule manière pour lui d'espérer échapper à la justice s'il est mis en examen dans les prochains mois.
Marie Nigli à Jérusalem pour Europe 1.
C'est une histoire digne d'un film catastrophe. L'explosion, écoutez bien, l'explosion dans un laboratoire russe où sont stockés les virus de la variole et d'Ebola.
Une nouvelle aussi inquiétante que fascinante qui a été très relayée hier sur les réseaux sociaux. Lundi donc, le centre de recherche Vector, basé en Sibérie, a été touché par une explosion et un incendie. Moscou a exclu tout risque de contamination. Faut-il y croire ? L'analyse d'Olivier Lepic, spécialiste des armes chimiques et biologiques.
Il faut toujours s'inquiéter quand ce type d'événement se produit dans des centres extrêmement sensibles comme Vector, qui abritent des agents pathogènes pour lesquels il n'y a aucun moyen thérapeutique pour soigner des éventuelles victimes. Donc c'est toujours inquiétant. Ceci dit, il s'agit d'une explosion suivie d'un incendie, que encore une fois, ces bactéries et ces virus sont souvent très fragiles et sont sensibles à la température, à l'hygrométrie, à l'exposition aux ultraviolets. Et donc, je ne pense pas que les risques encourus par les populations alentours soient élevés. Néanmoins, c'est toujours inquiétant et la multiplication des accidents industriels au sein du complexe militaro-industriel russe ces dernières semaines pose question, particulièrement dans des infrastructures nucléaires ou biologiques comme c'est le cas de Vector.
Olivier Lepic, spécialiste des armes chimiques et biologiques au micro européen de Jean-Gabriel Bourgeois.
Il est 7h14. Oui.
La musique fait rêver, mais les clubs français n'ont pas franchement bien commencé en Ligue des Champions. Un partout pour Lyon contre le Zénith Saint-Pétersbourg. 3-0 la défaite de Lille contre l'Ajax Amsterdam. Mais l'honneur, qui sait, viendra peut-être du PSG.
Bonjour Alain Roche.
Bonjour à Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes le consultant foot d'Europe 1, Alain, ancien joueur évidemment du Paris Saint-Germain. Paris donc face au Real Madrid ce soir. Alain, on va pas se mentir, hein, sans Cavani, sans Neymar, sans Mbappé, ce sera compliqué.
Oui, c'est toujours plus difficile quand vos créateurs ne sont pas là, quand vos artistes sont absents, mais surtout que c'était une attaque les plus peut-être performantes et efficientes de l'année précédente. Mais il faut faire sans ces artistes, au PSG de trouver la réponse un peu collectivement. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose depuis ce début de saison, on n'a pas vu de match abouti, mais c'est un match aussi pour se jauger, en savoir davantage aussi sur la valeur de ces nouvelles recrues qui ont inséré le club du Paris Saint-Germain comme Sarabia, Idriss Agaï et Icardi.
Le Real qui doit aussi faire ses preuves, hein, Alain. L'élimination l'an dernier en 8e de finale de la Ligue des Champions, seulement 2 victoires cette saison en 4 matchs de championnat. L'équipe de Zidane, elle est finalement peut-être pas si flamboyante que ça ?
Elle est moins lumineuse, elle est moins solide défensivement que l'année précédente et que les années passées, mais son palmarès de qualité des champions dans la dernière décennie prouve qu'elle est toujours présente dans les matchs de Ligue des Champions. Dès que cette musique retentit, on peut compter sur ce Real Madrid, même s'il y a beaucoup d'absents aussi, hein. Ramos n'est pas là, Modric non plus, Isco, Marcelo, mais vous pouvez compter un peu aussi sur cette équipe qui est extrêmement préparée pour ce genre de match.
Alain Roche, l'analyse d'Alain Roche, merci Alain, en direct dans ce journal de 7h.
Et ce match du PSG face au Real Madrid, on le suivra en direct et en intégrale ce soir sur Europe 1, émission spéciale avec Lionel Rosso dès 20h.
Un petit pronostic, Marion Calais peut-être ?
Oh là,
je demande
là,
à tout
là,
le monde. Anissé Mbida est en studio avec nous aussi.
2-1 pour le Real.
Oh là là, sortez de ce studio. Anissé Mbida.
Moi je vois un bon 0-0 avec un match où on s'ennuie.
Eh ben, je vais être bien fatigué demain. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h. Un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani. Vous voulez jouer le jeu du pronostic ? Tiens, le hashtag Europe 1, n'hésitez surtout pas, il est 7h16.